J'avais un paroissien, historien de profession et grand connaisseur de la Bible, qui avait l'habitude de répéter, avec de l'humour et beaucoup de provocation, « Tout le monde le sait, Paul est protestant, Pierre est catholique. » Hors de cette provocation, il serait plus juste de dire que les protestants se réclament davantage l'autorité de Paul que de celle de Pierre. Vous savez, la grâce, tout ça. Bref, il y a sans doute plusieurs raisons valables à cela. La première est que Pierre est plus un personnage des évangiles qu'un auteur. Or, il y a bien deux épîtres qui portent son nom, mais si l'on est honnête, dans le monde protestant, elles sont quand même assez peu lues. Et puis, la seconde raison est que Pierre est une figure très revendiquée, voire confisquée, par l'institution catholique romaine. Et la lecture du jour, extrait de l'évangile de Matthieu, est peut-être le passage le plus connu de cette prétention. En forçant un peu le trait, on pourrait même dire que ce passage, ou plutôt l'interprétation de ce passage, est l'une des causes de la réforme du XVIe siècle. Une lecture très premier degré des paroles du Christ a mené à faire de Pierre le gardien du paradis dont il aurait reçu les clés. Aujourd'hui encore, cette vision reste présente dans l'iconographie où l'on peut reconnaître Pierre au trousseau de clés qu'il porte ou dans les mains ou à la ceinture. Et ce rôle de Pierre comme gardien de l'accès au paradis est également visible dans de nombreux contes et dans beaucoup de blagues. Globalement, c'est une figure de la culture populaire. La papauté s'est vue comme l'héritière de Pierre et des pouvoirs qui lui auraient été conférés. Et par conséquent, les indulgences ne sont qu'une conséquence logique, de cette compréhension. Et vous savez, les indulgences ont été le déclic qui ont mené à la réforme. Bien sûr, dans l'histoire, les lectures protestantes ont cherché à démontrer que cette interprétation n'était pas bonne. Elles ont plutôt réussi à le démontrer, mais en revanche, elles ont beaucoup peiné à proposer une interprétation valable de ce passage. C'est bien beau de démontrer qu'une lecture est incorrecte, encore faudrait-il pouvoir en proposer une recevable. Et ces quelques versets sont restés comme un caillou dans notre chaussure. On les évacue un peu rapidement. C'est à Pierre seul que les clés ont été remises au sens symbolique, pas à ses successeurs. C'est à Pierre en tant que confesseur de la foi que ces paroles s'adressent. Oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que cela me dit de la volonté de Dieu pour les humains? Qu'est-ce que cela me dit de ma vie pour ma vie à moi? Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas trouvé de réponse. Mais je vais vous proposer quelques réflexions à ce sujet. Pour cela, il me paraît nécessaire de considérer tout le passage. Avant de déclarer Pierre heureux, nous y reviendrons, Jésus lui pose deux questions à ses disciples. La première, qui je vous le rappelle, est « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» À cette question, les disciples répondent collectivement et rapidement. Ils rapportent ce qu'ils ont entendu. Peut-être y mêlent-ils de façon un peu sournoise leurs propres idées, mais c'est une question et une réponse qui n'implique pas. En effet, dire ce que les gens pensent d'eux ne me met pas en danger. Et si je pose la question, selon la Bible, en combien de jours le monde a-t-il été créé, même un athée convaincu, mais cultivé, peut répondre en 6 jours. Cela n'implique pas, la réponse n'indique en rien qu'il adhère à l'information biblique. La Bible dit que, les gens disent que, c'est du factuel, ça ne me concerne pas. À la seconde question, pour mémoire, et vous, qui dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Un seul répond, Pierre. C'est toujours plus difficile de répondre quand il faut donner son propre avis, surtout lorsqu'il diffère des autres. Et Pierre prend ce risque. De cette question et de la réponse qui lui est donnée dépend toute notre vie. Qui est Jésus pour moi? Mais ce que j'aimerais faire remarquer, c'est l'enchaînement des questions, leur progression. J'ai lu un jour quelque part, je veux dire si c'est précis, la réponse d'un général interrogé sur ses croyances. Il avait répondu « Ce que je crois, demandez-le à Rome ». Cette réponse, qui est sans doute une provocation, hein, ne répond même pas à la première question. Est-il possible de répondre à la seconde question, qui est Jésus pour moi, si on n'a pas d'abord répondu à la première? Personne, pas même les disciples, pas même Pierre, ne découvre seul l'identité profonde de Jésus. Il n'y a pas de chrétien spontané. Tous, nous avons besoin du témoignage des autres. Oh, bien sûr, comme vous sans doute, j'ai entendu parler de personnes qui s'étaient converties toutes seules en lisant la Bible. Mais la Bible est justement la collection des témoignages de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Si la première question est nécessaire, la seconde ne l'est pas moins. On ne devient réellement disciple du Christ qu'en répondant sincèrement à cette question. Elle ne peut être la simple répétition de ce qu'on a entendu. Elle surgit d'une expérience de l'amour de Dieu et de sa présence dans notre vie. Bon, alors, et Pierre, en quoi a-t-il reçu les clés du royaume des cieux? En quoi tout ce qu'il aura lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce qu'il aura délié sur la terre sera délié dans les cieux? Et nous, en quoi sommes-nous concernés? Je dois d'abord vous faire part d'une conviction. Le royaume des cieux dont il est question ici n'est pas celui qui nous attend après la mort. Celui-ci ne dépend que de la grâce de Dieu. Je suis persuadé que le royaume des cieux peut se vivre ici, dès aujourd'hui. C'est une expérience spirituelle. Et je suis convaincu que c'est de cette acception-là du royaume dont il est question ici. Si nous témoignons du rôle de Jésus dans notre vie, nous pouvons permettre à d'autres de répondre à la première question. Et qui sait ? Peut-être parviendra-t-il un jour à répondre à la seconde. Au contraire, en nous taisant, nous lui dénions cette possibilité. Ainsi, nous lions ou délions nos prochains. Vous me ferez remarquer que nous ne sommes pas tout seuls et que d'autres peuvent s'en charger et à notre place et faire mieux que nous. Certainement. Ce qu'on appelle improprement le pouvoir des clés, ce dont nous venons de parler, n'est pas justement un pouvoir, c'est une responsabilité. Si je suis responsable de mes actes, je ne le suis pas de ceux des autres. Et c'est une pauvre excuse de me défausser sur eux. Nous sommes invités à témoigner de notre vie spirituelle. Si vous avez bien écouté le texte jusqu'au bout, vous pourriez me répondre « Il y a un gros problème à ton interprétation ». Le passage se termine par « Alors il ordonna aux disciples de ne rien dire à personne, de ne pas dire que c'était lui, le Christ ». Alors je vous félicite déjà d'être aussi attentif, mais cet ordre récurrent de Jésus s'appelle, ce qu'on appelle en jargon théologique, s'appelle le secret messianique. Il s'applique jusqu'au moment de la croix. Ce n'est qu'après que les disciples comprennent vraiment ce que Messie veut dire. Pierre avait raison de dire que Jésus était le Messie, mais il n'a pas compris, et il ne pouvait pas le comprendre, que cette notion même de Messie devait être crucifiée. Qu'être disciple du Christ n'était ni un pouvoir, ni un avantage, ni une gloire. Pour trop de gens, faire partie d'une religion, et c'est valable pour l'athéisme, c'est faire partie d'une élite, de ceux qui savent, de ceux qui sont supérieurs aux autres. Je vais prendre l'exemple d'une religion très répandue, le foot, ou le sport en général. Quand une équipe gagne, le mérite en revient à un nombre limité de personnes, joueurs, entraîneurs, j'en sais rien, j'y connais rien. Mais aussitôt, les supporters se mettent à crier « On a gagné !» Qui ça, on ? Et on se moque des supporters, des équipes moins chanceuses. Je caricature, bien sûr. Mais trop souvent, on confond la grandeur et la puissance de son Dieu avec la sienne propre. Si mon Dieu est le plus puissant, nous, ses supporters, nous sommes les meilleurs. Et ce n'est pas ce que dit le message biblique en général, et les évangiles en particulier. Les évangiles insistent sur ce point. Vous devez comprendre, nous disent-ils, que vos envies de puissance, de pouvoir et de gloire sont crucifiées en même temps que votre Messie. C'est ce que disent les quelques versets de l'Épître aux Romains de ce matin. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné au premier? Et mériterait de recevoir en retour? La grandeur de Dieu, ce n'est pas notre grandeur, c'est la sienne. Témoigner du rôle de Jésus dans notre vie doit passer par la croix. Bien sûr, les discours enflammés des néo-convertis sont enthousiasmants. Mais trop souvent, Ils ne sont pas encore passés par la croix. Ils cherchent à convaincre plus qu'à témoigner, à se justifier plutôt qu'à délier. C'est à ceux dont la foi est passée par les épreuves qu'il revient de témoigner, qu'on peut trouver ici et maintenant le royaume des cieux, qu'on peut trouver le bonheur. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Même si tu n'as pas tout compris, tu es heureux. Mais ce bonheur, cette idée de bonheur, doit lui aussi passer par la croix. Le bonheur proposé par les évangiles ne ressemble pas beaucoup à ceux des prospectus et des publicités. Relisez les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, heureux les affligés, heureux les affamés, assoiffés de justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs. Heureux les artisans de paix, heureux les persécutés pour la justice, heureux êtes-vous si vous l'on insulte, si l'on vous persécute et si on vous calomnie de toute manière à cause de moi. C'est pas très vendeur. Et je vous l'annonce, pourtant vous êtes heureux. Vous ne pouvez pas faire le bonheur des autres, mais vous pouvez y contribuer en liant ou en déliant. Mais ce qui est important de vous rappeler, ce qui est important, c'est de vous rappeler ceci. Heureux es-tu, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Car tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen.